Bernard-Marie Coltès, d'abord juste une petite question comme ça. Quand je vous ai connu, vous vous appeliez Bernard Coltès. Et j'ai toujours du mal à dire Bernard-Marie Coltès.
Je suis toujours Bernard-Marie. Toujours.
Toujours.
Oui.
J'ai cru que c'était d'abord pour les intimes et ensuite c'est devenu un prénom officiel.
J'ai toujours présenté mes pièces sous le nom de Bernard-Marie. Toujours.
Oui, ça c'est vrai. Mais pas vos premiers écrits.
Peut-être pas, oui, je ne sais plus.
Quel âge vous avez ? Vous ne savez plus.
Oh si, pour l'héritage, tout ça, je m'appelais Bernard-Marie déjà, oui.
C'est, ça,
c'est mon nom, je ne l'ai pas inventé.
Mais moi
j'aime autant Bernard.
Je m'en c'est fiche, ça, mais j'ai remarqué que quand j'ai dit quel âge vous avez, vous êtes tout de suite souvenu.
Quel âge j'avais maintenant ?
Oui.
Mes 40 ans ?
Oui.
Ah bah oui, c'est difficile de... Ouais, je suis né en 48.
Où ?
À Metz.
Ah oui.
Oui, la belle province.
Il y a longtemps, 40 ans, c'est beaucoup.
40 ans, oui.
Mais pourtant, vous êtes toujours un jeune auteur qui a réussi.
Oh, quelle horreur, le mot jeune auteur. Ça veut dire qu'on est plein de maladresses encore, donc on en a, mais j'ai des maladresses de vieillard maintenant. qui ne se corrigeront plus.
Il est parti, là. Mais quand je vous avais connu, il y a encore quelques années, vous n'aimiez pas tellement ces rencontres devant un micro, les interviews, vous aviez un blocage.
J'aime toujours pas, pour tout vous dire.
Ah, bon,
j'aime toujours pas, mais je le fais plus facilement qu'avant. Je le fais plus facilement parce que
ça n'a plus d'importance.
Parce qu'on acquiert une facilité. Je
technique.
Le fais comme je vais acheter mon pain.
Oui.
C'est-à-dire que ça ne me coûte rien, mais j'en ai pas un plaisir fou. Non. Puis parfois ça m'amuse. Si, en particulier la radio. Mais même la télé maintenant.
Ah oui.
J'ai fait une émission de télé avec Frédéric Mitterrand. Je me sentais très 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 bien.
À cause de la télé ou à cause
ce qui m'avait terrorisé. Allez, je vais commencer à dire du mal.
Oui, allons-y.
ce qui m'avait donné une haine, la télévision, c'était l'apostrophe.
Ah oui.
Ah oui, non, on n'a pas le droit de terroriser comme ça 5 ou 6 auteurs, sauf ceux qui ont une vieille habitude, mais des auteurs qui n'ont pas l'habitude, je veux dire, ça tremble des pieds à la tête, ça, c'est horrible, 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 et puis il faut arriver à placer son mot, il faut, c'est affreux, ce qui fait que j'ai pas ouvert le bec, moi, apostrophe. Alors que là, on se trouve en face...
Vous n'aviez pas répété ? Parce qu'il paraît que les auteurs sont non, pas avec Pivot, puisque Pivot dit que lui, il ne rencontre les gens qu'à l'émission.
Ah oui.
Mais j'ai cru comprendre que, comme pour les hommes politiques, les éditeurs qui misent beaucoup sur ces passages font travailler leur...
Ah non, ça je m'en
refuserai. Dit, alors il va te poser cette question, voilà ce que tu vas répondre.
Il n'en est pas question. Non, mais moi j'ai un éditeur quand même, c'est pas n'importe qui.
Oui, c'est qui déjà ?
C'est Jérôme Lindon.
Mais vous l'avez déjà rencontré, Jérôme Lindon ?
Bah oui, c'est mon éditeur. Ça, non, mais lui, c'est un vrai éditeur. C'est-à-dire qu'il lit les pièces, il vous dit ce qu'il en pense. Et non, ça, c'est quand même...
Alors, Bernard-Marie Coltès, puisque vous êtes édité aux éditions de Minuit et que vous avez un vrai éditeur, Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, c'est quelqu'un qui, dans le métier, est indiscernable. Je veux dire, en ce sens qu'il a... C'est un petit éditeur au sens du volume, mais il a un prix Nobel, il a un prix Goncourt, après encore un prix Nobel, quelques prix Médicis, etc. Alors, vous, si vous deviez en brosser un portrait rapide, qu'est-ce que vous nous raconteriez ? Comment vous le voyez ? Il est grand.
Moi, je dirais que j'ai une admiration incroyable pour cet homme, parce que c'est quelqu'un qui édite exclusivement ce qu'il aime, indépendamment de... du commerce, parce que par exemple, moi, ça rapporte rien aux éditions de Minuit, hein, le théâtre se vend pas. Donc il le fait avec une fidélité incroyable, parce qu'il y a eu des livres qui ne sont pas vendus du tout, comme Le Comte d'Hiver, des choses comme ça. Mon roman, même en passant apostrophe, il s'est pas vendu, mais puis le théâtre ne se vend pas, tout simplement. Donc il le fait comme ça, il a une opinion sur les gens qu'il édite, et c'est pour ça qu'il a des grands auteurs comme Beckett.
Claude Simon.
Claude Simon, oui.
Par exemple, ou Pinget. Mais comment vous avez fait pour le rencontrer ?
Eh bien écoutez, par hasard, parce qu'au moment de Combat de Nègre, j'ai eu des propositions d'éditeurs, comme ça, et j'en ai rencontré un ou deux. J'étais effaré. Il disait, ouais, il paraît que votre pièce est bien. En tous les cas, ça va bien se vendre. Alors moi, j'ai paniqué. J'ai été à la seule maison que je respectais vraiment. Et puis j'ai demandé à Jérôme Lindon de lire mon roman. Il l'a lu et il a dit, je l'édite. C'est tellement terrible, comme ça on se retrouve dans des bureaux avec quelqu'un qui n'a pas lu la pièce et qui vous dit, il paraît que c'est très bien, je suis prêt à l'éditer. C'est affreux.
Je ne vais pas vous demander qui c'était.
Non, je ne vous le dirai pas quand même.
Enfin, plus tard, vous me le direz certainement.
Oui, en douce.
Tout à l'heure. Mais je reviens donc à Lindon, là. Mais vous pourriez dessiner un portrait rapide de Lindon.
Je ne connais pas assez. Hein,
physiquement, il est grand.
Il est grand, très classe.
Oui, très classe.
Très aristocrate.
L'œil à l'écoute.
Oui.
L'oreille tendue.
Et puis il est très bien la manière dont il parle de l'édition. Ça, c'est très très bien. Il a des idées générales comme ça. On parle pas de petits trucs comme ça, mais il a des idées générales sur l'édition, sur le désespoir de l'édition, évidemment.
Mais là, par exemple, nous parlions de radio. Vous m'avez dit il y a quelque temps, ah, j'aime bien la radio. Mm-hmm. J'aimerais bien parler à la radio. Mais en définitive, on est quand même dans un théâtre, dans un foyer de théâtre, parce que c'est peut-être plus confortable pour un homme de théâtre de bavarder comme ça.
Oui, enfin,
c'est pour ça qu'on entendra des bruits de régie, de piano.
Je me sens pas mieux dans un théâtre que n'importe où. C'est pas mon lieu, le théâtre.
Hein. Ah bon?
Non, vous savez, je travaille chez moi. Non, mais j'aime bien me trouver dans un théâtre, regardez. Mais je suis pas, je fréquente pas, hein. Je fréquente pas les salles, je fréquente pas les plateaux. Je fous jamais les pieds sur un plateau, jamais. Et non, c'est pas un lieu pour moi.
Enfin,
j'y suis joué quand même, mais je ne peux pas dire que c'est un endroit où je me sens particulièrement à l'aise. Je me sens mieux dans des cafés arabes, sincèrement. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas l'endroit où je...
Ça. Comment? Au Barbès ou n'importe où
Oui, au Barbès, c'est fini.
C'est
Barbès.
Fini, hein.
Oui, c'est fini. C'est pour ça que je veux déménager.
Oui. Mais quel genre de café arabe? Je veux dire en France?
Non, mais oui, en France, oui. Oui, le café arabe ou je sais pas quoi, ou africain, ou oui. N'importe quoi. L'exo... Là, ça, c'est mes lieux, alors.
L'exotisme?
C'est pas l'exotisme. L'exotisme, c'est les Français moyens, pour moi. Ça, c'est l'exotisme.
Ah bon?
Ah oui, je peux vous garantir que le quartier où j'habite en ce moment, je vais le fuir, parce que je me sens plus étranger que...
Mais au fond, Bernard, Marie Coltès, vous êtes un grand malentendu, c'est-à-dire vous êtes un auteur aujourd'hui respecté quand même dans la nouvelle génération des auteurs français, vous êtes joué parfois et souvent même à l'étranger, en Allemagne, en Hollande et d'autres pays, et vous regardez ça d'un regard un petit peu distant.
Ben oui, je suis un écrivain, je suis pas ni un homme public, ni un mondain. Mon boulot, c'est d'écrire. Alors comme chaque fois qu'une pièce se joue, tout ça, je suis déjà en train de travailler sur une autre. Il n'y a que celle-là qui m'intéresse. Il y a que celle-là.
Ce que je comprends pas, c'est que je sais que vous avez beaucoup de mal à écrire.
Plus maintenant, plus trop. Enfin, j'ai du mal. Oui, on a toujours du mal à écrire. Hein. Mais j'ai plus les angoisses que j'avais avant parce que je me rends compte que le théâtre, c'est pas sérieux.
Ah bon.
Avant, je le prenais très, très au sérieux, et puis maintenant, je me rends compte que c'est quand même la futilité absolue, et que c'est pour ça qu'il faut la faire absolument parfaitement.
Mmh. Très bien, c'est gentil, ça. Mais alors, comment vous êtes entré en théâtre?
Oh, il faut que je recommence.
Non, pas recommencer, juste une phrase comme ça, rapide, parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est...
Par un coup de foudre avec Cazares. C'est ça, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais fait de théâtre, je crois pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, hein, ceci dit, je ne sais pas faire grand-chose.
Alors, vous êtes né à Metz il y a 40 ans, quel jour?
9 avril, Bélier.
9 avril, à Metz, et vous avez fait des études normales?
Oui, normales, médiocre et normales. Jusqu'au bac, après j'ai plus rien fait. J'ai voyagé, je trouve, on devrait d'ailleurs, à la sortie, bon, disons, du secondaire, on devrait foutre la paix aux mômes quand on peut le faire, bien sûr, quand il y a les
moyens. Et prendre la retraite à 45 ans, mais de 20 à 45 ans, ne pas travailler.
Non, pas si longtemps, non. Non, mais quelques années, 3-4 ans, comme ça, oui. Oui, non, mais là, c'est trop tard, après, on devient con.
Ah bon?
Non, je crois qu'il... Mais par contre, moi, je sais que tout ce que j'ai accumulé, je l'ai accumulé entre 18 et 25 ans. Tout. Après, on a largement de quoi écrire toute une vie. Ça, je le crois vraiment.
Donc là, vous avez voyagé.
J'ai beaucoup voyagé, voilà. Bon, un peu plus tard, hein, jusqu'à 30 ans par là.
C'est-à-dire que de Metz, vous êtes allé à Strasbourg?
Non, mon pauvre, oui, enfin, de Metz à Strasbourg et immédiatement à New York.
Ah ben, très bien.
Immédiatement.
Vous êtes allé à Strasbourg sur encore un malentendu. Vous êtes rentré dans une école du TNS, je crois, sur la suggestion du Bergini.
C'est pas tout à fait un malentendu, c'est que... C'est là que j'ai écrit un premier truc, comme ça.
Ah oui, alors comment ça? Pourquoi vous avez écrit un premier
parce
truc?
Parce que des copains m'ont demandé.
Ben voilà.
Oui, vraiment, sans raison valable.
Donc vous aviez envie d'écrire.
Ils étaient tous incapables, ils voulaient faire une adaptation de, je ne sais plus quoi, d'un Gorky, je crois. Ils étaient incapables, incapables d'écrire. Moi, je venais de voir Cazares.
Donc quoi, vous vous rappelez?
Médée.
Ah oui, de mise en scène de l'Abélie.
Voilà.
Version
et
Sonec,
et j'ai dit, moi, je saurais. Moi, je saurais, je pense à Cazares et je saurais écrire. Je l'ai fait comme ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein, je l'ai pu...
C'est où, ce papier-là?
Oh, ça, alors là, j'ai fait la tournée... 10 ans après de toutes mes vieilles pièces.
Ah bon, c'est vrai.
Je les ai ramassées, je les ai empruntées aux copains et tout ça, et j'ai mis tout ça.
C'est pas montrable.
J'en sais rien.
Je
sais pas où c'est.
Si on le retrouve.
Et puis j'ai jamais relu, je relis pas les pièces.
Il y a des copains qu'on connaît, qui ont réussi depuis, dans cette bande?
Non.
Non.
Aucun.
C'est
non,
vrai?
Non. Ils sont tous, ils font tous un autre
boulot.
Ils sont
tous casés?
Ouais, ouais. Et puis, entre autres, c'était des gens qui voulaient rentrer au TNS.
Ouais.
Moi, j'avais aucune envie. Et puis, on me l'a proposé. On m'a proposé une bourse, surtout.
Oui, c'est ça. Ouais. Comment c'est déjà les bourses, hein.
On m'a proposé une bourse, et ça, ça m'a fait rentrer. J'avais pas les...
Mais normalement, le TNS, c'est donc le Théâtre National de Strasbourg, dans lequel il y a une école très réputée pour former des comédiens et aussi des techniciens.
Voilà, alors j'ai un peu appris la technique, ce qui m'a pas... Tout le reste m'ennuyait, mais la technique, non. Ça m'a passionné, l'éclairage, quoi.
C'est-à-dire, vous savez faire, comment on se fait.
Je savais en tous les cas, je ne sais pas si je savais. Ouais. Si, je sais encore, si, si. Ça, c'est des choses qui m'ont intéressé, mais vous savez, j'étais très, très dilettante. Hein.
J'entends, mais là, au TNS, il y avait tout de même une école importante. Il y avait un directeur qui a un certain prestige dans le métier, c'est Hubert Gignoux, qui a été en quelque sorte votre premier mentor. Puisqu'il vous
c'est
a
surtout
depuis...
lui qui m'a fait écrire, hein, parce que moi, je n'aurais pas fait. Il m'a dit continuer. Il a insisté, j'ai réécrit une pièce très mauvaise, d'ailleurs, il me l'a dit, et puis ainsi de suite. Et puis après j'ai écrit, comme ça, par la force des choses, un peu. Et puis après, c'est devenu une nécessité. Quoi.
C'est-à-dire, personne ne vous a marqué dans cette période? Dans les gens de théâtre, je veux dire.
En dehors d'Hubert Gignoux, non.
Non.
Non, non, vraiment. Mais vous savez, il y a... très peu de monde qui m'ont marqué sur le plan du théâtre. Hein.
Et dans la vie?
Il y a
Cazares, oui.
Cazares, Gignoux, Chéreau pour la dispute.
C'est-à-dire, c'était Marivaux, là, encore. Hein. C'était pas Coltès.
Oui, non, 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 non.
Oui, oui.
Bon, Maillan, un petit choc comme ça, mais...
À Maillan, un petit choc comme ça?
Oui.
Mais c'était quand? C'était dans...
L'année dernière, quoi, ou il y a 2 ans.
Lily et Lily, c'est ça?
Lily, oui. Mm-hmm.
Vous y êtes retrouvé entre
et
les
puis
deux.
Puis Cazares de nouveau, et encore Cazares, et puis Peter Stein dans avec les trois sœurs.
Ah oui. Bah, c'est la classe, comme vous dites, c'est ça?
Oui, ouais. C'est la classe. Alors, Piccoli, non, il y a eu. Non, après, plus ouais, tard, il y a eu des gens. Bon, oui.
Mais ça fait partie de votre côté gentil. C'est-à-dire, vous allez faire toute une liste après avoir dit ce que vous pensez. Mm-hmm. Non?
Non, il n'y a pas des masses. Il n'y a pas des masses.
Il n'y a pas des masses.
Non.
Alors,
je crois que j'ai tout dit, là.
Alors laissons un instant le théâtre de côté, puisqu'au fond, le théâtre est une chose futile, vous l'avez dit, Bernard-Marie Coltès. Venons aux choses encore plus futiles ou encore plus sérieuses. Donc, venons au voyage. Pendant quelque temps, lorsqu'on se rencontrait l'un ou l'autre et que j'avais à voir de vos nouvelles ou à en donner, je disais, il est probablement sur un cargo. Bon, j'inventais un peu, mais des fois, je tombais juste.
J'ai toujours rêvé d'aller dans un cargo, mais quand j'ai commencé à demander, c'était fini, il ne prenait plus personne.
Alors, quand vous êtes allé à New York?
Alors, j'ai toujours été en avion, quoi.
À New York, c'était pas en cargo?
Non, j'ai rêvé. Mon rêve, c'était d'aller à New York en Concorde et revenir en cargo. Ça a toujours été mon rêve, parce que je trouvais que c'était une expérience physique de la relativité. Je trouvais que c'était une idée formidable. Puis le cargo ne marchant plus, pour faire de transatlantiques, on se retrouvait avec des mémés à bijoux et des soirées. Alors ça, quand même, j'ai pas le courage.
Ah, vous auriez pu.
Et les cargos, ça se fait plus.
Vous auriez pu séduire, parce qu'il y a quelques mémés comme ça qui s'est dit, il est gentil ce garçon, vu comme ça.
Oui, mais j'ai aucune envie de séduire les mémés, franchement. Je sais pas ce que j'en ferais, moi.
Mais alors, New York. C'est pour vous, la première image, c'est la Statue de la Liberté ou c'est Manhattan, c'est quoi?
Ah, ma première image, c'est donc en 68, c'était un autre New York.
Ouais.
C'était d'abord tout à fait une autre ville, et puis on n'était surtout pas habitués, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les McDonald's, il n'y avait pas la culture américaine qui nous a
en France,
depuis
oui.
bien envahi. Mmh. Et alors ça, je crois que c'est un des chocs les plus... De toute façon, New York, je crois que le vrai choc qu'on a, c'est la première fois qu'on y va. Ça, c'est fou.
Mmh.
Et puis après, je suis plus retourné pendant assez longtemps. J'ai plutôt été en Amérique latine. Et j'y suis retourné. Après, j'y allais chaque année pendant 3 mois, comme ça. Puis là, j'en ai marre. J'en ai marre parce que bah voilà, on a fait le tour assez vite, quoi. Mais à l'époque, c'était incroyable parce qu'on tombait dans un autre monde complètement. Maintenant, on tombe pas dans un autre monde. On tombe dans une immense ville, quoi. C'est tout.
Mais votre premier choc, New York, c'était quoi réellement, comme ça? Quelle image? Quel son?
C'était la taille, la dimension des choses.
Mais ça, c'est l'Amérique, non? La taille, la dimension.
Oui, mais enfin, maintenant, ça fera plus. Il n'y a plus les immenses voitures, par exemple, tout ça. Maintenant, tout est un peu mesquin. Alors,
quand vous arriviez à New York, vous saviez ce que vous vouliez faire. Vous n'avez pas choisi
pas
New York
tout.
Par hasard.
Oh, bah, pas à cause du mythe.
Mais vous vouliez, quand on arrive en France, par exemple, certains disent je vais à la Pigalle, d'autres
je vais aller. Ah non, moi je ne savais pas. Moi, non, j'allais à New York parce que c'était New York. Hein. Je ne savais rien de New York.
Et là, vous étiez pris en charge?
Non, c'était les charges.
Je ne parle pas d'argent,
Oui.
Pour une fois, ne parlons pas d'argent.
J'étais seul. Non, rien. Et je me suis baladé pendant 2 mois à travers l'Amérique profonde, en plus.
Ah.
L'Ohio, tout ces... c'était champ de maïs, en stop, tout ça. Et alors, ce qui fait que je connaissais des gens, bien sûr.
Alors, si on revient au théâtre, est-ce qu'on peut dire que votre voyage à New York ou votre voyage dans l'Amérique profonde vous a marqué et impressionné au point de vous donner des...
Ah, bah c'est sûr, oui. C'est sûr, oui. Non, c'est sûr. Par exemple, Key West est directement inspiré de New York, quand même, hein, des grands gars de New York. Mm-hmm. Mais vous savez, les chemins par lesquels les voyages, par exemple, ou les expériences vous amènent à écrire quelque chose, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas à partir de quelque chose. On écrit, on accumule les expériences, ça vous modifie un peu la tête, et puis après on écrit sa pièce à soi, quoi. Mais je pourrais pas dire qu'une pièce est inspirée de tel endroit ou tel endroit.
Non, mais je crois que vous êtes également intéressé par la peinture. Non?
Pas tellement.
Par le dessin?
Non.
La photo?
La photo, j'aime bien, oui.
Alors, vous m'avez...
Mais je suis pas vraiment un spécialiste de ça.
Non, mais est-ce que vous, quel cliché vous ramenez? Je veux dire, un bonhomme, une rue.
La photo, j'aime bien comme oui. Moi, je prends jamais de photos, hein, jamais.
Je comprends
jamais.
Bien, mais si vous deviez, vous pourriez ramener quoi? Une rue de New York, de l'Ohio?
Non, des portraits.
Des portraits.
Des portraits, c'est la seule chose que
des
j'aime.
Des bons hommes, des bonnes femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des noirs.
Des noirs, oui. Cette question. Voilà. Des noirs, des portoricains,
voilà. Des métèques.
Oui. Des métèques, de toute façon, oui.
On revient à vos cafés arabes.
Ah oui, oui, non, mais c'est très clair. Je hais les Français, je hais les Occidentaux. Ça, c'est pas un truc philosophique, c'est pas un truc... Je les hais profondément.
Mais pourquoi? Qu'est-ce
qui
vous en fait?
Parce que je les trouve d'une arrogance incroyable, je les trouve d'une vanité folle. Je crois qu'ils se prennent pour le centre du monde. Je les trouve agressifs. Je les hais, vraiment. Vraiment, c'est pour ça que je supporte plus mon quartier, je supporte plus ça.
Mais quand vous êtes né à Metz, vous avez vécu longtemps à Metz?
Jusqu'au bac, quoi.
Voilà, et qui est-ce qui vous a un petit peu titillé à ce point-là? Les gens?
Ben non, c'est pas Metz, non.
C'est pas Metz?
C'est pas, non, je peux pas
c'est
dire.
C'est village, Metz, à part ce monument immense, dont j'ai horreur, forcément, qui est la gare de Metz.
Ouais, seule chose dont je crois qu'elle m'a frappé à Metz, c'était au moment de la guerre d'Algérie, l'arrivée de Massu. C'est vraiment la seule chose. Le reste, c'est une banalité consternante. Et comme mon collège était en plein milieu du quartier arabe.
Ah, déjà?
Oui, en plein milieu de ça, peut-être.
Oui.
pendant la guerre d'Algérie, où on faisait exploser les cafés arabes, tout ça, ce quartier était fliqué jusqu'à l'os. On nous conduisait littéralement jusqu'à la porte du collège, parce que c'était un collège bourgeois. Et
vous étiez fils de bourgeois, vous?
D'officier, quoi. La bourgeoisie militaire. Ce qui n'est pas une bourgeoisie riche.
Non, c'est une bourgeoisie itinérante, ou... Je veux dire, votre père a...
Oui, mais nous, on n'a pas voyagé. Ça, je le regrette vraiment. C'est-à-dire, ma mère est toujours restée à Metz, et moi, je regrette qu'on ne l'ait pas suivi en Indochine, qu'on ne l'ait pas suivi en Algérie.
Quand votre père a voyagé,
ben,
c'est
oui.
Ça. Ben votre père, parce que, et vous, vous ne l'avez pas suivi.
Mais non, alors je n'ai pas connu mon père, je l'ai connu beaucoup plus tard, je l'ai compris beaucoup, beaucoup plus tard. Vous l'avez connu trop tard.
À quel âge?
Je ne sais pas, il est arrivé, il a débarqué chez nous en revenant d'Indochine, j'en parle pas parce que c'était terrible. Je hurlais quand il est arrivé, j'ai dit qui c'est ce monsieur qui s'installe chez nous. Et puis quand il est revenu d'Algérie, j'étais donc plus grand, et on s'est engueulé tout le temps, c'était évident. Et qu'est-ce que vous voulez, j'étais un petit merdeux là qui n'avait pas quitté sa ville, lui il avait eu des expériences mais dont je me rends compte maintenant de ce qu'elles peuvent être. Et on s'est engueulé. Et puis à 20 ans, j'ai commencé un peu
à comprendre.
Ouais, un peu. Puis maintenant, je comprends. Alors, nom de Dieu, je regrette vraiment.
Mais qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez
la carrière de votre père? Qu'on l'a fait chier, mon père. On l'a fait chier. Il revenait d'Indochine. Vous pouvez imaginer ce qu'il avait vécu en Indochine. Oui. Les militaires qui reviennent du Vietnam, ils sont foutus, la vie. Mon père arrive, il trouve une femme rougissante d'émotion avec trois marmots dans les mains comment voulez-vous qu'il puisse admettre ça, enfin comment voulez-vous qu'il se rebranche là-dessus, et évidemment ça a fait des drames parce qu'il comprenait rien, parce qu'il était irritable, parce que finalement il en avait rien à foutre de nous, ce je comprends très bien. Et alors ma mère a pris le pouvoir, si je puis dire. Oh, mon Dieu, elle va entendre ça. Non, mais ça fait rien. Ça fait
non,
rien.
Mais c'est intéressant, parce que ça si j'ai rien. Bien compris.
Elle a pris le pouvoir et lui a été comme un pauvre con. Personne ne le comprenait dans cette foutue ville, évidemment. Et puis voilà. Et puis il a été pratiquement forcé à prendre sa retraite, alors que sa vie, sa vraie vie, c'était d'être officier. Il était assez mondain comme ça. Et on lui a reproché ça. Et c'est faux, c'est une erreur. On aurait dû lui foutre la paix autour d'Indochine.
En somme, les victimes, c'est pas vous, c'est pas la mère abandonnée avec trois pas enfants. Non, c'est le papa qui est parti faire la guerre.
Absolument, la mère n'était pas abandonnée.
Du Viet Minh, non?
Mais oui, elle avait toute sa.
Mais comment vous
famille,
arrivez à résoudre cette contradiction aujourd'hui? Il y a votre père, quand il était soldat, mais il était soldat de carrière, officier, donc il est en Algérie, en Indochine, c'était pas la fête.
Ah non, mais moi je ne porte aucun jugement moral. Il a fait la guerre. Ah bon. C'est des guerres dégueulasses, mais il l'a faite, quoi. On n'y peut rien. Il y a beaucoup de gens qui ont été en Algérie, et c'est pas des chiens pour autant.
Parce que vous dire que vous lui pardonnez parce que c'est votre père?
Non, pas du tout. Je n'ai pas pardonné aux militaires qui ont fait la guerre. C'est pas eux les responsables, c'est les politiciens. Tout le monde le sait. Donc, on n'a pas à apporter des jugements moraux sur les officiers, sur les militaires.
J'entends bien, mais tout à l'heure, vous avez dit, à Metz, ça a bougé quand Massu est arrivé. Que je sache, Massu n'était pas un politicien.
De toute façon, il y a une différence fondamentale, c'est que mon père n'a jamais torturé personne. Bon. Ça, j'en suis sûr. Il a un sens moral. Il avait un sens moral très, très fort. Et ça, je suis sûr. Il a certainement tué avec ses armes et tout le bordel. Ça, je suis sûr qu'il n'a jamais torturé quelqu'un. Il y a donc une différence déjà de morale entre Massu et mon père.
Si j'ai bien compris, oui. Mais il avait dit quand même qu'il avait essayé lui-même la GIGN et que sinon, il ne l'aurait pas autorisé.
C'est monstrueux. C'est encore pire que tout. Enfin,
d'accord,
il pourrait au moins avoir le cynisme honnête.
Vous savez qu'il a quand même changé. Il a fait des déclarations il y a peu. Il a expliqué un certain nombre de choses. Donc il a appris. Mais cela étant, vous, Bernard-Marie Coltès, si j'ai bien compris, au fond, à la limite, si votre mère vous entendait, elle va être scandalisée. C'est que vous en voulez à votre mère.
Mais non, au contraire, depuis le début...
Ma mère, oui.
Mais non, j'en veux pas non plus, parce que comment voulez-vous qu'une femme de province qui est jamais sortie, jamais... Bon, elle a été au Maroc se réfugier pendant la guerre, c'est à peu près sa seule expérience. Et encore, ils étaient entre militaires, et bon... comment voulez-vous qu'elle comprenne ça? Enfin, ces deux univers tellement, tellement éloignés, c'est
oui, mais
impossible.
Enfin, si vous avez, pour faire de la psychanalyse à petit saut, hein, si vous avez eu cette envie de quitter Metz, de quitter ensuite Strasbourg, de quitter finalement la France et de voyager et de revenir d'ailleurs, c'est qu'il y a une raison. Vous voulez quitter ce foyer, faux foyer familial.
Oui, c'est pas tellement la famille, ça m'a. Bon, elle m'a pesé beaucoup plus tard. Non, c'est
à quel âge? Quel âge?
Oh, je sais pas. Maintenant, elle m'emmerde.
Oui,
c'est clair.
Voilà.
Je peux pas vous dire à partir de quand ça a commencé, mais maintenant, bon, sauf ma mère, parce qu'on a des foutus attachements. Je sais pas pourquoi.
Ça vous embête, ça, hein? Parce que vous parliez tout à l'heure d'arrogance des Français. Mais vous croyez pas que vous essayez de jouer un peu au cynique?
Non, je trouve pas que ce soit du cynisme.
Non, non, j'ai élargi le débat.
Non, mais j'ai pas peur de dire que. Enfin, je sais pas. Je vois pas pourquoi je ménagerais la susceptibilité des Français ou des. Je vois pas pourquoi. Je les hais, vraiment, je les hais.
Alors, dites-moi un Français que vous avez rencontré dans la rue ou dans votre ville et qui vous a tellement bouleversé au point où vous les haïssez tous
Mais
ensemble.
c'est pas un, c'est tous.
Et qu'est-ce
Je
qui vous en
descends dans la
fait?
rue, je vois un embouteillage avec les gens prêts à tuer, littéralement à tuer.
Et vous croyez que c'est propre aux Français, ça?
C'est propre à l'Occident, certainement. Je parle de l'Occident, hein, évidemment. Je parle pas de l'Amérique, qui est encore. Les États-Unis, c'est encore pire. Mais au moins, oui, non, mais en France aussi, il y a du métissage. Mais en Amérique, quand même, un peu plus. Hein. Mais tous les jours, je deviens fou, moi. Dans le métro, dans le bus, tout ça, je les trouve. C'est des tueurs en puissance, tous, tous, tous. Et ils tuent d'ailleurs, hein, en plus. C'est pas simplement en puissance, c'est qu'il y en a plein qui tuent. Les voisins qui tirent sur les gens qui cassent une voiture, sur les trucs. Non, non, c'est vraiment des tueurs, les
Et
Occidentaux.
pourtant, on ne le retrouve pas dans votre théâtre, ça.
Difficile d'en parler, mais ce que dans ma prochaine pièce, oui.
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 Non, c'est toujours ce qu'on dit. C'est on dit dans mon prochain film, dans mon prochain roman.
Ben oui, non, mais
Mais
bon,
bon.
on a des préoccupations. Si vous voulez, je vais pas
Par exemple.
avoir la haine des Français comme préoccupation pendant toute ma vie. Elle me prend là maintenant, je vais la voir pendant un certain temps, puis après
Non,
j'essaie d'oublier quand
mais la
même.
violence, quand même, à ce point. Je veux dire, quand on prend. Bon, La nuit juste avant les forêts, qui est la première pièce qui a été jouée de vous. C'était donc à Avignon, ensuite à l'Odéon. Avignon avec Yves Ferry, Monique Grégo et vous-même, d'avoir, si ma mémoire est bonne, vous avez donné un coup de main.
Non, la première.
Vous n'étiez pas
Non, non,
étranger à la
Monique Grégo n'était
présentation.
pas là, hein. C'était Yves Ferry et
Et
moi.
vous, c'est ça. Et après, il y a eu Monique Grégo.
Après, il y a eu le petit
Et puis,
Odéon, et
Odéon avec
après.
Fontana
Voilà.
et Boutet, c'est ça. Bon. Donc, vous avez donné quand même un coup de main.
Avec Yves, oui, bien
Ouais.
sûr.
Donc, le théâtre, vous crachez pas tellement
Oui, mais
dessus à
c'est un
l'époque.
monologue, il n'y a
D'accord.
pas à faire de mise en scène. Il était assis à une table et il ne bougeait pas.
Il bougeait
Donc.
pas et il disait quand même un certain nombre de violences.
Oui.
C'était un individu qui crachait.
Oui, sur les Français d'ailleurs déjà. Donc c'est une vieille obsession apparemment, vous voyez. Elle a au moins 10 ans. Non, mais j'ai jamais
Cette pièce a
aimé.
été, je tiens à le dire, inscrite au programme de la Comédie française.
Oui. Oui.
Donc il n'y a pas de malentendu.
Oui, mais ils l'ont pas joué dans la grande salle.
Non, ah bah c'est en Mais ensuite, Combat de nègres et de chiens, on peut dire là qu'on retrouve un certain nombre de violences, puisque cette pièce qui allait vous lancer sur le marché du travail, lorsque Chéreau la monte à Nanterre, avec justement entre autres Piccoli, dont vous parlez souvent là, là il y a un peu de ça.
Oui, mais alors je dirais que
Puis à l'Afrique aussi.
les Français dont je parle dans Combat de Nègre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est les exilés français. Et je dois dire que même s'ils restent franchouillards jusqu'au bout des ongles, ils m'inspirent quand même une certaine tendresse de gens déracinés comme ça. Et vraiment, j'ai pensé à eux avec tendresse. Si vous voulez, je peux pas dire que je hais. Bon, je dis je hais les Français, bien sûr. Mais je les hais pas globalement. On n'a pas le droit de haïr comme ça un truc. Je dis que je hais l'esprit français, je hais la majorité des gens, le français moyen, tout ça, je supporte pas. Mais ni les bourgeois français d'ailleurs. Mais il y a des
Vous n'avez
Français
pas
qui
allé
sont
jusqu'à
des
me dire j'aime les ouvriers français tout de même.
Ah, pas sûrement pas.
Ah
Non,
bon,
non,
mais pas être démagogue à ce
pas
point
plus
quand
que les autres. Non,
même.
non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à
Non.
voir avec leur situation. Et quand on et les Français exilés au fin fond de la jungle, je vous jure qu'on peut pas les traiter comme les Français qui habitent hein, à Paris et qui vont au boulot et qui regardent la télé et qui vont tout ça.
Mais Bernard Maïkoltès, juste pour boucler un aspect des choses là. Vous aviez vraiment besoin d'aller en Afrique pour écrire Combat de nègres et de chiens?
De
Puisqu'on
toute
parle de
façon,
voyage.
j'avais besoin d'aller en Afrique pour écrire tout, n'importe quoi. C'est-à-dire que je. Mais si on commence là, ça va être long, je vous
Ça ne fait rien, ça ne fait
bon.
rien. On parle des voyages là.
Bon. Non, non, mais parce que pour moi, alors c'est l'Afrique, c'est un truc. C'est une découverte essentielle. Essentielle pour tout. Pour tout. Parce que c'est un continent perdu. Absolument condamné. Totalement. C'est vraiment la mort de C'est comme un bateau qui chavire comme ça et qui est très très rempli de gens hein, et qui est perdu, il n'y a aucun espoir. Et je me dis que de savoir quand même, c'est essentiel, c'est pour ça que je dis que c'est essentiel de voyager très jeune, c'est que ça vous resitue un peu dans le monde. C'est que les gens qui voyagent pas, qui sont restés en France, ils pensent que la France, c'est le centre, que les gens qui sont malheureux en France, c'est le comble de la misère, alors que c'est des riches par rapport à l'Afrique. Et puis il y a un degré de souffrance. Et quand on pense qu'il y a des gens, des mômes comme ça qui passent toute leur journée à faire l'aller jusqu'au puits et le retour du puits, on se dit, mais comment on peut encore s'intéresser à des problèmes sentimentaux, des choses comme ça. Ils passent leur journée à ça et ils meurent à la fin, en ayant passé leur journée, leur vie entière à chercher de l'eau. Je vous jure que ça vous remet dans votre, à votre place. Je ne dis pas qu'on est obligé d'y penser tout le temps parce qu'on deviendrait fou, ou bien il faut être un saint et puis aller se dépouiller de tout et aller vivre là-bas, etc., et mourir avec eux. Mais c'est quand même une chose essentielle, ça. Alors, pour moi, l'Afrique, c'est plutôt un truc décisif pour tout, pour tout, pour tout. J'écrirais pas s'il n'y avait pas ça. S'il n'y avait pas cette espèce de souvenir derrière la tête qu'on est incroyable privilégié, d'incroyable qu'on n'est pas intéressant, enfin que c'est rien.
Là, ça tourne là.
Oui.
Si tu as le bruit du, si vous avez le bruit du, c'est, alors c'est la pause café. Hein,
c'est la pause café.
Le café, pas trop de cigarettes.
Cigarettes.
Pas trop, pas café. Trop. C'est mauvais pour le micro, hein, pas pour la gorge. Hein. Mais le café est bon, je crois.
Il est très bon. Ouais.
Très bon. Alors Bernard Marie Coltès, c'est le deuxième café là. C'est pas un café ivoirien.
Oh, j'aime pas le café ivoirien.
Ah bon, mais je croyais que l'Afrique, pour vous, c'était la Côte d'Ivoire.
Non, non, non.
Non, c'est quoi l'Afrique?
Non, j'aime bien un côté. Non, non, mon pays préféré, c'est le Nigeria. Les pays durs.
Les Dogons.
Oui, non, non, c'est... Les pays francophones, j'aime pas trop, pour tout vous dire.
Ah,
j'aime bien, ça continue.
Ouais.
Mais les pays anglophones, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus... D'abord, ils ont été beaucoup moins influencés par les colons. Ce qui fait qu'ils ont une espèce d'autonomie, comme ça, un orgueil magnifique.
Vous avez vu en Afrique des danses rituelles
Je déteste ça.
Ah bon, très bien.
Je déteste le folklore africain.
Mais qu'est-ce que vous aimez?
Les Africains.
Très bien. Mais pourquoi?
Quand ils boivent du Coca-Cola sur un terrain d'épandage, hein, c'est comme ça que je les préfère.
Ah, oui. En plus.
Oui, oui. Ah non, je déteste le folklore africain, vraiment, alors... J'aime beaucoup la musique moderne africaine, hein, Salif Keïta, tous ces gens-là. Ça, oui. Mais non, le folklore, les statuettes.
Les masques, non.
Oh, je déteste ça. C'est un truc de touriste, c'est un truc de colon, ça. C'est un truc de colon, c'est affreux.
On pense. Mais alors, qu'est-ce que vous aimez dans l'Afrique? Alors,
les Africains, je vous le dis.
Les Africains.
Il n'y a que ça qui m'intéresse. De toute façon, même en Amérique latine, la seule chose qui m'intéresse, c'est les gens. Les gens, le reste, je m'en fous.
Non, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils sont plus libres, ils sont plus malheureux, ils sont plus authentiques.
Oh là là, vous demandez des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Ah. C'est un truc de je ne sais pas.
Écoutez, si vous allez dans un pays, vous n'aimez
pas.
Ils ont de plus,
je dirais, par la négative. Ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas cons comme les Français. Ce n'est pas des tueurs en puissance. Non, non.
Non?
Non, je ne crois pas, non.
Mais quand vous dites les Africains, vous faites une généralité.
Mais c'est aussi une généralité. Ouais. Hein, j'en connais quelques-uns, j'en connais pas des masses.
Mais vous parlez.
Disons que je me sens mieux là-bas qu'ici. Non, je me sens plus bien là-bas.
Non, non plus.
En plus, j'y vais plus parce que c'est trop douloureux. C'est vraiment trop douloureux.
Mais alors, quand vous arrivez en Afrique, vous n'allez pas dans la brousse. Vous allez dans les bons hôtels quand même.
Ah non, ça jamais. J'ai jamais été dans un bon hôtel.
Quand vous êtes arrivé
Sauf quand j'y suis allé avec Chéro et Pedouzi, évidemment.
Quoi?
On a été dans les somptueux hôtels pendant 5 jours, comme ça. Mais quand j'y vais, moi, non. Non,
mais quand vous êtes allé avec eux, on va revenir à vous. Mais quand vous êtes allé avec eux, pourquoi?
C'était eux qui voulaient voir pour monter Combat de Nègre.
Et ils avaient vraiment besoin de soi, non?
Oui. Ah oui, ça, je crois que ça a été indispensable. Même 5 jours pour Patrice, oui. Oui, parce qu'il a une intuition quand même formidable, Patrice. Oui. Je dis pas qu'il a. De toute façon, comme c'est une pièce, c'est pas une pièce sur l'Afrique, c'est une pièce sur les Français en Afrique. Si vous voulez, il faut pas passer des mois pour voir ce que c'est.
Donc, il a été voir les Français en Afrique.
On a été exactement sur les chantiers où moi j'avais été. Donc, il n'y avait pas de problème.
Et il y avait le modèle qui était là?
Non, je crois pas. Non, Donc, il y avait beaucoup de modèles, hein, donc il n'y avait pas un modèle, vraiment... mais il y en avait, de toute façon, ça se reproduit dans tous les chantiers, c'est les mêmes. Alors, on a fait une dizaine de chantiers comme ça. Mmh. Et puis voilà, bah, là, on ne logeait pas dans les hôtels, parce qu'il n'y en avait pas. Mmh. On logeait dans les bungalows des chantiers qui s'appelaient le Peuplier, le Camélia, avec des petits jardinets.
Vous voulez dire que c'est pour touristes alors ?
C'est pas pour touristes, c'est pour Français en exil.
Ah bon ?
Ils reproduisent la France avec la petite piscine, avec je vous dis, des noms comme ça, aller c'est absolument effarant. Mais ça, il faut le voir une fois dans sa vie.
Oui, mais alors, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous débarquez en Afrique, laissons Patrick Chéreau, Richard Belloudi, et je suppose également André Serré pour la bande-son,
qui est venu
plus tard de son côté. Bon, laissons donc ces Français qui arrivent pour ramasser de l'inspiration pour monter une pièce à Nanterre de Bernard-Marie Coltès. Et revenons à Bernard-Marie Coltès, qui arrive en Afrique et qui me dit, moi, j'aime beaucoup l'Afrique, c'est un continent à la dérive, un continent presque fichu, à la limite, si je l'entends. Mais je n'aime pas la musique africaine authentique, ancienne en tout cas, dite folklorique.
Mais il n'y en a pas, il y en a pas.
Je n'aime pas les masques d'Ogon, j'aime pas les masques tout court qui ont quand même influencé l'art nègre. Quand même,
les statues du Bénin, j'aime beaucoup.
Ah bon, parce que quand même l'art nègre et le surréalisme.
Non, l'art nègre authentique, oui, bien sûr.
Ah bon, non, mais c'est
ça
dont je parle.
Ah ben ça, c'est incontestable.
Ah bon, quand même.
Oui, oui, mais il y a eu tellement, c'est tellement dur d'en voir, je vous jure. Pour voir des statues du Bénin,
il faut aller au musée de
faut
Bénin.
Aller au Nigeria et se trouver dans une petite salle d'exposition ridicule parce qu'il n'y a pas de touristes.
Oui.
Donc je vous jure que ce n'est pas simple. Hein,
non, mais le fait que, par exemple, les Africains ont su transformer, en tous les cas avec le regard que nous avons porté, que les Occidentaux ont porté, que nos générations succédant ont porté, c'est-à-dire un objet usuel, un objet rituel, un objet funéraire, c'est devenu un objet d'art fantastique qui fait que Michel Léris rencontre Picasso et lui montre autre chose, et Picasso fait autre chose.
Oui, mais si vous parlez du vrai art africain, oui. Bien sûr.
Oui.
Bien
sûr. Mais ça vous touche vraiment, là. Mais...
Ah oui, ah oui. Non, je vous jure, moi j'ai vu que les statuettes du Bénin et j'étais sur le cul. Hein.
Mmh. Mais ça fait rien, mais vous, peut-être que vous avez pu les trouver à New York ou à Paris.
Oui,
ou à Rome.
C'est ça. Ça, on peut trouver. Bien sûr. Bien sûr. On peut aller. Il y a une galerie, là, à Saint-Germain qui est spécialisée là-dedans, où il y a des choses absolument somptueuses.
Mais ça vous touche vraiment?
Ah oui, j'aime beaucoup. Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça vous dit, alors, justement? Ça, c'est la question. Parce que
mais je ne fais pas le rapport, pour tout vous dire. Je ne fais pas du tout le rapport. Mmh. Ça, c'est de l'art qui me touche, comme les statues de Giacometti ou des choses comme ça. Non, je ne fais pas le rapport avec l'Afrique d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir.
Et l'Afrique d'aujourd'hui...
Alors, quand je dis que je n'aime pas le folklore africain, c'est bien du folklore que je parle, bien sûr. C'est-à-dire de tout ce qui se passe depuis un siècle. Mmh. C'est-à-dire que c'est une dégénérescence... à cause de l'Occident, une dégénérescence de l'art africain. Et je trouve que maintenant, il est en train de renaître dans la musique.
Oui,
dans la musique, hein, seulement.
Vous ne pensez pas que la musique est un peu déformée par l'apport de l'Occident?
Elle n'est pas déformée, ça a donné un nouveau sang.
Ça
a donné un nouveau sang.
Même si la musique africaine d'aujourd'hui fait la mode à l'Occident.
Oui, mais les modes, on s'en fout, les modes. La musique est belle ou elle n'est pas belle. Vous voyez, c'est pas un truc de mode.
Ça, c'est facile, ça, quand même, à dire.
Comment ?
C'est facile à dire, ça.
Bah, non, je vois pas pourquoi c'est facile.
Belle ou pas belle, la pièce est bonne ou pas bonne, le comédien est bon ou pas bon, c'est un critère tellement subjectif qu'on ne peut pas communiquer avec ça.
Oui, non, mais pas...
Avec l'autre.
Non, moi, je ne parle que de mon opinion. Le coup des modes, moi, je suis pas un sociologue, j'ai pas envie d'analyser qu'est-ce qui marche dans la musique ou qu'est-ce qui marche pas. De toute façon, moi, il y a les musiques que j'aime et puis qu'on est nombreux à aimer.
Par exemple.
En musique africaine?
Ce que vous voulez, que je comprenne.
Bah bon, il y en a tellement.
Alors, en musique africaine.
En musique africaine, il y a Salif Keita, il y a Manu Dibango, tous ces gens-là, j'en connais pas tellement. Mais... Non, non, attendez, Alpha Blondie.
Ah.
J'en ai pas d'autres qui viennent.
Côté,
là, mais il y en a plein. Oui, aussi. Et puis... Non, non, il y en a beaucoup. Hein, beaucoup, j'ai pas les noms qui viennent. Ah. En musique alors noire américaine, alors là, par où commencer? Billie Holiday, Otis Redding, Aretha Franklin. mais c'est bête parce que j'en ai plein.
Et la musique...
John Lee Hooker, tout ça, c'est incroyable.
Mais est-ce que vous avez, vous, retrouvé en Afrique ou en Amérique une passerelle possible entre les Africains d'aujourd'hui, qui sont en Afrique, et les ex-Africains d'Amérique, c'est-à-dire les descendants des Africains et qui sont américains.
Non, c'est une autre race. Non, non, ça n'a rien à voir. Les Noirs américains sont américains, d'abord. et puis voilà, non, non, il n'y a pas... Ben, y a eu des expériences comme ça, le retour à l'Afrique et tout ça, ça a été une catastrophe quand même. Hein. Catastrophe totale. Donc, non, c'est impossible, ça. Puis encore les Noirs jamaïcains qui sont encore tout à fait une autre race.
Ils sont peut-être plus anciens
plus
parmi
proches,
les...
Plus proches de l'Afrique, beaucoup plus, beaucoup plus. Mais ils sont pas quand même... c'est pas les mêmes. Non. Mais vous savez, même en Afrique, c'est pas les mêmes. Entre les Aïrois et les Ivoiriens, c'est pas vraiment la même chose. Les Africains, ça veut pas dire grand-chose, parce que...
Comme les Français ou les Occidentaux, finalement, c'est une généralité.
Comme les Français et les Américains. Oui. C'est quand même deux races différentes. Dieu merci.
Alors quand vous arrivez donc en Afrique, pour en finir avec l'Afrique, vous trouvez, vous êtes tout seul, vous allez par exemple au Nigeria, donc à Lagos par exemple, vous arrivez en avion, hein, puisqu'il n'y a pas de cargo.
Le grand avantage, c'est que ma première découverte de l'Afrique a été l'Afrique dure, mais vraiment dure. C'est-à-dire j'ai débarqué à Lagos, qui a une réputation, qui est le Chicago de l'Afrique.
Oui.
Et la première chose que j'ai vue en descendant de l'avion, c'est quand même un cadavre qui flottait sur le fleuve. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a immédiatement dégoûté tout le folklore africain, évidemment. Et puis ensuite, je me suis trimballé en camionnette par les chefs avec les chefs de chantier, tout ça, d'un chantier à l'autre pour rejoindre les amis qui travaillaient. Et je me suis tapé le pire qu'on peut imaginer, et puis ensuite les petits avions, et puis les petits machins comme ça. Donc j'ai eu ma première vision, et j'en suis bien content, de l'Afrique, très très violente, comme un pays de fous, comme ça. Parce que les gosses, je vous jure que c'est quelque chose, hein, on se fait arrêter, on ne peut pas sortir la nuit, tous les maisons de blancs sont gardées.
Aujourd'hui encore ?
Ah oui, aujourd'hui encore, bien sûr.
Au Nigeria ?
Au Nigeria. Les gosses surtout. Et on se fait arrêter, si on a le malheur de se promener, même après avec Patrice, on avait la voiture de l'ambassade, on était dépouillés. Hein. On a voulu un soir aller au restaurant, on a été arrêtés par les flics, ou des faux flics, on ne sait jamais, et on a été dépouillés. Complètement.
Sans plus.
On a fait demi-tour, on est rentré à l'ambassade.
Ça est sauf.
Oui, oui, ça est sauf, mais pas sûr. Hein. C'est pas une évidence. Parce que si c'était faux flics, c'est pas une évidence. Ils peuvent piquer la bagnole, ils peuvent... Non, non, c'est vraiment incroyable, incroyable.
Ouais. Alors, faisons encore une petite halte, là. Vous êtes donc arrêté, Patrice et vous, c'est-à-dire Patrice Chéreau. Et vous étiez que tous les deux.
Avec Richard, mais Richard est parti plutôt, oui. Parce qu'il avait la trouille.
Voilà.
Il ne supportait pas. Il a pris l'avion beaucoup plus tôt que nous.
Donc vous êtes resté
les deux. Il était mort de trouille tout le temps, mal à l'aise et tout. Alors,
bon. C'était le plus raisonnable de vous deux, non?
Non,
vous trois.
C'était le plus couard, je dirais.
Le plus bourgeois, vous avez dit?
Le couard.
Ah bon, non, mais j'ai cru que vous avez dit le plus bourgeois. C'est ça?
Je sais pas, non. Oui, sans doute.
Sans doute, mais c'était pas une insulte.
Bien sûr, parce que c'est quand même une expérience qu'on n'a pas 36 fois dans sa vie. Je trouve qu'il faut pas la rater parce qu'on a la trouille.
Il faut pouvoir la raconter ensuite, c'est ça le problème.
Exactement, oui. Voilà,
mais à condition qu'on s'en sorte, là. Voilà. Mais il faut dire que Richard Peduzzi, lui, a eu un avantage ou un inconvénient sur vous deux, c'est qu'il est quand même père de famille.
Il ne l'était pas à l'époque.
Il l'était pas, mais il le pensait qu'il allait le devenir, peut-être, je ne sais pas. Il avait des responsabilités.
C'est affreux comme argument, franchement.
Ah. Mais vous, par exemple, Chéreau, il n'était pas angoissé, Chéreau ?
Si, mais on était tous angoissés. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous faites arrêter dans l'obscurité la plus totale par des mecs avec des mitraillettes au poing. On n'est pas vraiment... On vous fait mettre les mains sur la voiture et on vous fouille, on vous pique votre fric. Personne n'est courageux dans ces cas-là. On ferme notre gueule, on paye et puis on s'en va, si on peut.
Ça fait partie des sensations que vous recherchez à défaut de...
Mais je ne recherchais pas. Non. Je n'ai jamais recherché quelque chose en un...
Vous buvez beaucoup.
Pas. Comment ?
Vous buvez beaucoup.
Je ne bois pas du tout.
Non ?
D'alcool ?
Oui.
Non.
La bière, surtout ?
Non.
Non plus.
Non, du whisky le soir. Non, je ne suis pas du tout alcoolique.
Vous êtes sobre ?
Bon, je fume comme un fou. Je fume deux paquets et demi par jour.
Ouais, mais... C'est pas grave, la cigarette. On risque le cancer, c'est tout, paraît-il, mais...
Ouais, ouais, ouais.
Mais pas d'autre chose, quoi.
Oui, non, mais je suis pas du tout alcoolique.
Alors. Non, vous êtes quelqu'un de sobre, de sérieux, et qui essaye de sortir de son personnage.
Mais je ne sais pas pourquoi vous me dites ça.
Je sais pas, j'ai posé une question.
Pourquoi suis-je sobre et sérieux, la sobriété?
Parce que moi, je crois qu'au fond...
Si c'est uniquement pas boire d'alcool, oui, je suis sobre.
Le reste, ça va.
mais ça va.
Le reste n'est pas ça. Bon.
Et puis sérieux, alors vraiment, avec un métier comme je le fais, vous croyez qu'on peut, que c'est sérieux ?
On peut jouer un personnage.
Mais je ne joue pas de personnage.
Moi, je crois que le vrai
vis-à-vis
Coltès...
De qui ? Je n'ai pas de vie publique.
Non,
aucune.
Mais le vrai Coltès, c'est celui qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, ça, nous sommes d'accord. Mais c'est celui qui, par exemple, pas loin d'ici...
Non, je fume comme un fou. Je fume deux paquets et demi par jour.
Ouais, mais c'est pas grave, la cigarette. On risque le cancer, c'est tout, paraît-il, mais...
Ouais, ouais, ouais.
Mais pas d'autre chose, quoi.
Ouais, non, mais je suis pas du tout alcoolique. Alors.
Non, vous êtes quelqu'un de sobre, de sérieux, et qui essaye de sortir de son personnage.
Mais je sais pas pourquoi vous me dites ça.
Je sais pas, j'ai posé une
en
question.
Pourquoi suis-je sobre et sérieux, la sobriété?
Parce que moi, je crois qu'au fond...
Si c'est uniquement pas boire d'alcool, oui, je suis sobre.
Le reste, ça va.
Mais ça va.
Le reste n'est pas ça. Bon.
Et puis sérieux, alors vraiment, avec un métier comme je le fais, vous croyez qu'on peut que c'est sérieux ?
On peut jouer un personnage.
Mais je joue pas de personnage.
Moi, je crois que le vrai
vis-à-vis
Coltès...
De qui ? Je n'ai pas de vie publique.
Non,
aucune.
Mais le vrai Coltès, c'est celui qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, ça, nous sommes d'accord. Mais c'est celui qui, par exemple, pas loin d'ici, va dîner très tard dans un petit restaurant du coin de la rue Le Pic, et qui est un homme de la nuit.
Ah bah oui, oui, je suis pas le... Non, je ne suis pas un couche-tôt, ça c'est clair. C'est pour ça que je suis malheureux dans mon quartier.
Voilà, quand les clients de ce restaurant s'en vont, c'est à ce moment-là que Coltès s'installe avec le patron du bistrot, du restaurant, il commence à manger.
Oui. C'est pas ça c'est très banal quand même.
Oui.
Les gens qui n'ont pas d'horaire, en général, ils préfèrent vivre la nuit que le jour.
Oui, mais c'est qu'il fuit quelque chose. Hein.
Rien
ça, c'est
du
évident.
Tout. Mais rien du tout, mais c'est un rythme tout à fait aussi normal et raisonnable que les gens qui se lèvent à 7h du matin pour aller au boulot. Nous,
non.
On n'a pas d'horaire pour le boulot.
Oui.
Donc, dans la mesure où on n'a pas d'horaire, on se lève à l'heure qu'on veut, on se couche à l'heure qu'on veut. Et automatiquement, ça se décale vers la nuit, franchement, parce que la nuit, c'est plus marrant. C'est plus marrant.
On fait des rencontres.
Mais j'en sais rien, on en fait le jour aussi, mais c'est plus chaleureux que le jour.
Est-ce que c'est pas des rencontres de solitude, la nuit ?
Ben, j'en sais rien, de toute façon. Moi, je suis complètement solitaire. Alors,
oui.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans la journée ? Moi, je travaille en plus, ça m'arrive quand
Combien
même.
Combien vous j'écris. Écrivez par jour, d'heures, quand vous écrivez ?
Ça dépend des périodes. En ce moment, je travaille beaucoup, c'est-à-dire 4 heures.
Ah, c'est beaucoup ?
Oui.
Vous lisez beaucoup ?
Par période aussi. Pas en ce moment, pas quand je travaille.
Alors, on revient à la nuit quand même. Je veux dire, la solitude des champs de coton, c'est pas un hasard non plus, là. Le titre dit bien ce qu'il veut dire, là.
Si vous voulez, là, je parle de la solitude.
Oui.
Mais on ne parle pas de la solitude.
Non,
on ne parle pas de ça.
Mais
c'est,
franchement.
C'est une absence de quelque chose.
Vous avez 40 ans bientôt. Hein. Si, même dépassé maintenant, puisque vous êtes né en avril. Là.
Oui. Ah, ben vous êtes dur là. Oui, ouais, j'ai 41 ans dans
41
quelques mois.
Ans, bon, alors ne trichons pas.
Non, mais je m'en fous de là.
Voilà. Vous êtes plus jeune que Chéreau.
De 2-3 ans.
De 2-3 ans. Mais pourtant, il se conduit comme s'il était votre aîné quelque part. Parce qu'il avait réussi avant vous.
Ah non, je ne trouve pas qu'ils se conduisent comme un aîné.
Non.
Non. Puis maintenant, en tous les cas.
Ça a bougé.
Mm-hmm.
Mais qui a fait bouger les choses ?
Mes pièces. Tout simplement. Bah oui, oui, la première pièce, j'étais un débutant, j'écoutais tout ce qu'il disait, tout ça. Puis après,
C'est-à-dire que vous êtes patient.
Ah oui, patient, oui. Oui, oui. J'ai attendu 40 ans pour bien gagner ma vie. Hein.
Oui. Alors... Vous avez attendu combien d'années pour être joué par Chéreau ?
J'étais joué qu'en 83, donc vous voyez. Et j'avais fini la pièce en 80 ou 79.
79, je crois,
oui. Ouais. Donc, vous voyez.
Mais vous l'avez attendu, c'est vrai, ce qui est assez rare.
Comme maintenant, j'attends Peter Stein, tranquillement.
Ça va faire plaisir à Chéreau, ça.
Ah ben en Allemagne,
ça
de toute façon, moi j'ai aucun engagement vis-à-vis de Chéreau. Le problème n'est pas là.
Mais Peter Stein le sait ?
Oh, j'arrête pas de faire des putasseries par presse interposée, s'il le sait pas maintenant.
Je peux l'appeler.
Comment ?
L'appeler.
Ah non, mais il y a eu un article du Spiegel de 5 pages,
bon.
Où, dans le Spiegel, où je le répète 25 fois. Et j'ai toute la patience du monde et j'ai bloqué les droits pour ma prochaine pièce en Allemagne, par exemple. Ça, alors je l'aurai. Si je dois attendre, je sais qu'il est, il veut plus faire de théâtre comme tout le monde. Il veut faire que des opéras. Il a son programme bloqué, tout ça. Je m'en fous.
Il va à Londres là, oui.
Je m'en fous, j'attends.
C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez.
Ah oui, il y a des choses. Oui, heureusement. Ouais.
Mais alors, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est vraiment pour éclairer ma lanterne. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, vous êtes quelqu'un qui est issu, vous êtes quelqu'un qui est issu d'un milieu petit bourgeois, tranquille, sobre, calme, pas agréable toujours.
Pas vraiment, hein.
Non.
Avec un père absent. Absent, mais qui revenait quand même de temps en temps. Et ça perturbe beaucoup les choses.
Oui, hein. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, ce type qui revient chez nous. Alors qu'il revenait chez lui quand même.
Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est une... C'est une première enfance sans père, ça c'est clair. C'est
ça. Bon, et ça vous a manqué.
Oui.
Vous n'avez pas... Vous êtes le frère, l'aîné de la famille?
Non, le plus jeune.
Plus jeune, et les frères n'ont pas été...
Je sais pas.
À la hauteur, donc je veux dire, ils vous ont pas aidé?
Oh non. Donc, non, mes frères, c'est rien. Enfin, c'est... Non, c'est pas rien, mais c'est pas... Mais non, c'est pas de... je peux pas dire que j'ai...
En tous les cas, votre père vous a manqué. L'absence du père...
Oui, beaucoup.
Et la mère n'a pas remplacé l'absence du père.
Non.
Elle a été plutôt un peu... Je le dis moi, hein. Bon, mais c'est comme si c'était... Bon, vous l'aviez dit. Mais une fois que vous sortez donc de ce milieu, vous gardez ces traces. Vous avez beau me dire, entre 18 et 30 ans, on se forme, mais avant 18 ans, on a d'autres choses.
C'est essentiel, les impressions qu'on a beaucoup plus jeunes, c'est essentiel.
Donc,
ça, je crois vraiment.
Il a fallu que vous luttiez entre ce que vous auriez voulu être et ce que vous avez refusé d'être si vous aviez suivi la voie qui vous était tracée. D'accord ?
Oui.
Bon. Mais il semble quand même que vous avez une vraie patience de paysan, comme on dit, entêté, dire que quand vous voulez quelque chose, vous le faites. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent être essentielles pour les autres. Et vous, si ça ne marche pas, vous vous en fichez.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a, il semble que vous pouvez jouer à qui perd gagne.
Je comprends pas.
Alors, je dis la chose autrement, Bernard. Peut-être qu'il semble que vous vous accrochez sur des choses, parce que vous voulez réussir cette chose-là.
Ouais.
Vous croyez que c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour vous. Mm-hmm. Mais en même temps, le fait qu'il y a la mort au bout, et la solitude au bout, vous pouvez vous dire, après tout, à quoi ça sert tout ça?
Ah, mais complètement. C'est pour ça que je suis entêté. C'est-à-dire qu'à 25 ans, j'ai dit jamais je travaillerai, jamais j'aurai de patron, jamais je me lèverai à heure fixe, et je me suis entêté parce que je me dis la vie vaut pas la peine. Si c'est pour vivre une vie comme ça, c'est que je trouve pas que la vie soit une chose tellement essentielle, première, dont on a absolument besoin, qu'il faut accomplir jusqu'au bout et tout ça. Moi, très tôt, je me suis dit, il y a des choses que je ne ferai jamais, je ferai exclusivement ce que j'ai envie de faire. Et j'ai traîné comme ça pendant très longtemps, quand même.
C'était dur, vous avez galéré, comme on dit.
J'ai galéré jusqu'à, je sais plus, c'est à Combat de Nègre que j'ai commencé à
gagner de l'argent, oui.
Déjà un peu avant, en Allemagne, mais pas, c'était des sommes dérisoires.
Il y a eu des commandes, quand même, parce que Combat de Nègre était le résultat aussi d'une commande.
Oui, 10 000 francs.
10 000 francs,
bon.
Oui.
Ok, j'ai aussi une commande de la Comédie Française pour que, ouais, c'était aussi 10 000 francs. Alors, c'est pas sérieux, ça. Hein.
Je ne veux pas vous demander combien vous avez maintenant, parce qu'on va me poser la question.
J'ai beaucoup trop, c'est évident.
C'est-à-dire ?
Je suis scandalisé.
Combien
moi.
Vous avez ?
Scandalisé.
De toute façon, vous déclarez. Alors.
Je gagne 5 000 francs par représentation.
5 000 francs par représentation ?
Oui. Je trouve ça...
Oui. C'est formidable.
Oui, je trouve ça scandaleux.
Oui, mais vous crachez pas dessus, quand même.
Non, parce que je sais ce que je vais en faire, mais je peux vous garantir que je ne vais pas le dépenser pour moi. J'ai peut-être un peu, je vais me chercher un appartement de 100 mètres carrés, je vais peut-être vivre un peu mieux, des choses comme ça, mais je ne dormirai pas la nuit à l'idée de dépenser des sommes comme ça.
Mais vous allez quand même peut-être venir en aide aux Africains.
Oui, bah, je n'ai pas commencé à dire ce que je vais faire, mais c'est évident, oui.
Oui.
C'est évident, et je deviens une bête en affaires, ça je peux vous le dire.
Oui.
Ça, je peux vous le dire.
Vous avez changé un peu, là, parce que moi, je vous ai connu...
Oui, timide et tout. Oui. Parce que je ne me rendais pas compte des sommes. Maintenant, mais c'est de la folie. C'est de la folie, ce qu'on gagne. Mmh. Tout d'un coup, comme ça. Alors, pendant des années, on vous donne pas un copec, et puis ensuite, on vous donne des sommes faramineuses. Alors, je vais en demander de plus en plus. De plus en plus, je me dis c'est quand même mieux de se dire on va construire un hôpital au Zaïre que de voir des gros producteurs qui vont se payer une villa supplémentaire sur la Côte d'Azur.
Mais vous voyez que vous êtes un sentimental.
c'est pas sentimental, ça, c'est là une morale élémentaire.
Non, mais morale, sentimentale, quand vous me dites je vais prendre une partie de mon argent que j'ai gagné en tant qu'auteur, c'est mes droits d'auteur, c'est pas un cadeau qu'on me fait. Il y a une recette, il y a tant d'argent qui rentre, les prix sont assez élevés, les acteurs sont très bien payés dans vos spectacles. Et vous me dites, une part de mon argent, je vais l'investir.
C'est évident.
Alors, ça veut dire que vous croyez à quelque chose de plus ?